Gloire à Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode, au chapitre 32. Exode, chapitre 32, 1 à 7. Exode, chapitre 32, 1 à 7. Nous allons donner le contexte avant la lecture. Le contexte, c'est que Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage dans lequel il était en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, ils se retrouvent au désert. Et Moïse s'est absenté un temps pour aller prier, chercher la face de Dieu. Et le peuple est resté avec l'autre chef qui était Aaron. Voilà, donc nous lisons maintenant la suite liée à l'absence de Moïse. Exode 32, 1 à 7.
Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. »
Voilà, ce qui est arrivé, c'est que celui-même qui devait défendre la foi dans le Dieu invisible, le Dieu véritable, Aaron, qui était la bouche de Dieu, ben c'est Aaron même qui construit le veau d'or, qui est contraire aux attentes de Dieu. Vous voyez, notre thème aujourd'hui, c'est la pression. La pression, c'est quelque chose de très, très dangereux et de très puissant, la pression. Et parce qu'elle peut être très, très subtile, elle peut être en apparence faible, mais manipuler l'esprit d'une personne. La pression, c'est une puissance qui veut t'amener à produire quelque chose, à prendre une direction donnée. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui te dit, nous attendons telle chose de toi. Voilà. Donc c'est, nous attendons quelque chose de toi. Ça te pousse à faire quelque chose. C'est une grande puissance et c'est elle qui modèle la vie des humains, la pression. Ne confondons pas la pression avec la responsabilité. Nous pouvons faire d'une responsabilité une pression. Pour un parent, c'est une responsabilité d'amener de la nourriture à ses enfants, de s'occuper de ses enfants, mais ça peut se transformer en pression. Il ne faut pas que la responsabilité devienne une pression, parce que lorsqu'elle devient une pression, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Je veux redire, la pression, c'est une puissance qui te pousse à produire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as décidé. C'est ça la différence. Il faut que j'éclaire bien ces choses avant de poursuivre. la grande différence entre la responsabilité et la pression, c'est que dans la responsabilité, tu décides de faire des choses parce que tu considères que c'est bon. Donc il y a une implication personnelle claire et nette, un choix personnel. Alors que dans la pression, il y a plus le côté satisfaire une puissance. Cette puissance, elle peut avoir comme assise les autres. C'est-à-dire les autres attendent quelque chose de toi. Hein? Vous savez, il y a des gens qui se sont bagarrés à cause de la pression. Donc, il fait partie d'un groupe d'amis de 5. Ben, c'est lui qui est l'ancien boxeur. Donc, on arrive dans un endroit où on nous manque de respect. Et les autres le regardent. Vous dites, mais c'est à lui de faire la différence ici. Et la personne, même si elle n'avait pas décidé de se battre, mais en voyant le regard des autres qui s'attendent à l'ancien boxeur pour faire quelque chose, tu vas te battre et parfois te faire tuer comme ça. C'est ça la pression. C'est-à-dire ça te pousse à faire quelque chose que tu n'as pas décidé de toi-même par analyse, par choix. Ça te pousse. Et c'est ça qui fait que Aaron construit un veau d'or. Au fait, c'est contraire même à ce que lui, il a enseigné. Il n'avait pas encore enseigné. En tout cas, quand eux, ils sortaient, le peuple d'Égypte, ils ont clairement manifesté que leur Dieu à eux, ce n'était pas une statue, ce n'était pas ces choses-là. Leur Dieu à eux, il est invisible, il est tout puissant. Et là, nous sommes dans quel chapitre ? Chapitre 32. Mais c'est dans quel chapitre qu'il y a l'ordre de ne pas faire de statue ? Au chapitre 20. Donc Aaron est au courant de cet ordre de Dieu, de ne pas faire de statue. Mais, et il est censé être l'enseignant de cela, puisque Moïse avait dit qu'il avait des difficultés à parler, et Dieu a dit, ben, je mets à côté de toi ton frère, lui sait parler, mais toi tu seras comme Dieu pour lui, et lui sera de la bouche de Dieu, il parlera à ta place. Donc Aaron avait répété la loi à tout le monde, qu'il ne fallait pas faire des images, il ne fallait pas adorer des images, il ne fallait pas faire des sculptures, il ne fallait pas adorer les sculptures. Et là, c'est lui-même qui fabrique. Pourquoi ? Parce que les gens sont venus le voir. Il se retrouve au milieu du peuple qui lui dit, mais écoute, Moïse, ça fait un moment, on ne le voit plus. Ça fait plus de 40 jours, plus de 20 jours, peut-être plus de 30 jours. Mais alors, là, nous n'allons pas rester sans Dieu quand même. Fais-nous quelque chose, prends tes responsabilités, c'est toi notre chef, c'est toi le chef maintenant après Moïse. Prends tes responsabilités, fais-nous un Dieu clair. Puisque c'est Moïse qui est censé représenter Dieu, mais il n'est pas là. Mais pourtant, ils avaient bien appris que Dieu ne voulait pas qu'il y ait une image pour représenter une quelconque puissance spirituelle. Mais, devant la pression, celui-même qui est censé les amener sur le bon chemin, sur le droit chemin, il les amène sur le mauvais chemin. Voilà. Est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a tant de faux pasteurs, tant de faux, entre guillemets, mouvements religieux, parce qu'il y a une pression derrière qui pousse les gens, même quand ils étaient bien intentionnés au début, il y a la pression, les gens te disent, mais nous ne voyons pas de miracles. Ben, comme tu veux t'affirmer bon pasteur, eh ben, tu vas commencer à chercher des moyens pour faire les miracles, alors que Jésus l'a déjà dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au lieu de t'attendre au miracle de Jésus, tu finiras par faire alliance à des humains qui sont censés t'imposer les mains pour que tu reçoives l'onction des miracles. Et c'est comme ça que beaucoup ont fini dans le fétichisme carrément. Ils sont passés de Dieu à Satan parce qu'ils ont voulu satisfaire à une pression de la clientèle, donc des gens qu'on appelle chrétiens, qui veulent une religiosité donnée, qui veulent... Vous savez, le peuple d'Israël avait dit carrément quand à Samuel, « Nous voulons les rois comme tous les autres peuples. » Voilà, il y a la pression des gens qui se disent chrétiens mais qui n'aiment pas vraiment Jésus, qui veulent vivre un style de culte. Ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent un style de culte. Alors on va te dire, mais oui, mais il n'y a pas telle chose ici. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais des alliances, tu produis maintenant plus avec Dieu, mais avec le diable. La pression peut faire des choses très, très négatives. Vous voyez, c'est ce qui vient de se passer là. Aaron, sous la pression, il fait vraiment n'importe quoi. Il fait l'opposé de ce qu'il devait faire. C'est ça la pression. Elle est très, très dangereuse. Une puissance qui te dirige à faire quelque chose, à produire quelque chose. Et elle peut venir de plusieurs sources. Elle peut venir de toi-même. Toi-même, tu te mets la pression. Elle peut venir surtout des autres. Elle peut venir de ton passé. Elle peut venir d'un système, du contexte dans lequel tu vis. C'est la pression. Tu vois, l'âge. Tu atteins tel âge. Ah oui, mais je ne suis pas encore marié. Il y a la pression qui vient. C'est ça la pression. Le but de la pression, c'est enlever ton discernement, t'enlever ton choix personnel pour t'imposer quelque chose qui vient de l'extérieur. Et cette chose qui vient de l'extérieur, ça peut venir de tes fausses pensées. C'est comme toi, tu es censé être un enfant de Dieu, avec une ligne claire venant de Dieu. Mais on va vouloir te mettre tes pensées propres à toi, charnelles, qui ont pour base la chair, même si ça vient de toi. C'est ça, ça reste, ça demeure de la pression. Voilà ce que Aaron va faire, quelque chose de très grave. Prenons un autre exemple dans Nombre 20, 1 à 12. Nombre 20, 1 à 12.
Nombre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert d'Étine, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadiers, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.
Voilà. Parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Moïse se l'est joué à Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Nous, on peut vous sortir de l'eau. Donc, il a pris comme la place de Dieu. Il n'a pas sanctifié Dieu. Il a pris sa place. Et vous voyez ce que peut produire la pression, quelque chose de très grave. Et dans cette pression-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe sur le rocher. Deuxième erreur, deuxième péché. On lui avait dit de parler au rocher. Mais comme il avait l'habitude d'utiliser le bâton pour d'autres miracles, pour certains miracles, eh bien, sous la pression, déjà il dit n'importe quoi, il dit c'est nous qui allons vous sortir de l'eau, non ? Sous la pression de ces gens-là qui sont là. Il veut prouver qu'il est un vrai serviteur de Dieu, il est un bon prophète. Qu'est-ce que vous croyez ? Parce que, comme nous allons le voir, au lieu que la pression, lui, il la redirige vers Dieu, il l'a gardée sur lui. Si c'était dit, vous criez sur moi pourquoi ? Je vous ai signé une alliance avec Dieu, crier vers Dieu lui-même. Ben, moi, je ne suis qu'un intermédiaire, un instrument. Je ne vous ai jamais dit que c'est moi qui étais votre Dieu. Moi, je vous ai présenté le Dieu véritable. Vous avez accepté l'alliance avec lui. Ben, parlons ensemble à lui. Pourquoi vous jetez sur moi ? Mais lui, il a gardé la pression sur lui. Et dans cette pression, il dit n'importe quoi, et ensuite il frappe le rocher, toujours la pression. Et dans cette pression, finalement, il reçoit la parole de Dieu qui va faire mal. Vous deux là, Aaron et toi, vous n'entrerez pas en terre promise, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, vous ne m'avez pas respecté. Voilà, vous avez cédé à la pression des humains. Et quand nous cédons, ce sont des éléments que je dis pour ne pas oublier, quand nous cédons à la pression des humains, nous leur donnons plus d'importance qu'à Dieu lui-même. Un enfant de Dieu doit agir sous la conduite du Saint-Esprit. C'est Dieu qui doit le conduire. Ce n'est pas la pression des humains qui doit décider. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Et Moïse, que dans certains passages, on dit de lui qu'il était l'homme le plus patient. Vous voyez comment la pression est venue à bout de lui. Quelqu'un considéré comme le plus patient. Mais face à la pression, il a fini par craquer. Donc nous allons parler des conseils à la fin. Il faut toujours se décharger sur Dieu de toute pression. Même quand elle paraît justifiée, il faut toujours se décharger sur Dieu. Il ne faut pas garder ça sur soi, comme si c'est toi qui vas régler les choses. Acceptons, nous en profitons pour dire les choses, pour ne pas oublier. Acceptons d'être vu comme quelqu'un qui a échoué, mais nous amenons la chose à Dieu lui-même. Parce que qu'est-ce qui fait que nous craquons sous la pression ? Parce que nous voulons montrer que nous sommes capables de répondre à l'objet de la pression. C'est ça. Les gens se sont moqués de nous. Tu n'es pas intelligent. Et tu subis cette pression-là. Tu as eu 3 sur 10, 3 fois successives. Et maintenant, pour prouver que tu peux réussir, tu vas tricher. Voilà. Tu finis par tricher. Parce que tu veux répondre, tu veux prouver, au lieu d'accepter l'échec et de laisser Dieu faire la différence, en voulant prouver que tu es capable de répondre aux accusations liées à la pression, c'est là que nous faisons de graves erreurs. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. On lui met la pression. Tu nous as amenés dans le désert. Lui, au lieu de répondre, ce n'est pas moi qui vous ai amenés dans le désert. Nous avons tous obéi à l'ordre de Dieu. Oui, il est passé par moi, mais vous étiez d'accord. Il ne vous a pas pris de force. Alors, assumons cela et prions Dieu. Mais lui, il a accepté, c'est toi qui nous as amenés dans le désert. Il ne fallait pas qu'il accepte. Il ne fallait pas qu'il cède. Et en acceptant ça, il a mis les choses sur ses épaules. Donc, il s'est senti obligé d'honorer les attentes en face de lui. Et c'est là qu'il fait la grave erreur. La pression est très dangereuse. Il faut être très vigilant. La pression gâche la vie. Vous savez, il y a un certain nombre d'années, j'ai connu presque un mois de tristesse parce que je ne comprenais pas pourquoi les souvenirs de ma jeunesse chrétienne semblaient être si merveilleux au point de dépasser ma vie de ce moment-là en Christ. Je me disais, c'est pas normal que dès que je pense à ma jeunesse chrétienne, j'ai l'impression d'une forme de félicité. C'est comme si ma vie d'aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante en Christ. Et cette prédication fait partie de la réponse. C'est que même si déjà à l'époque, la question avait été réglée, j'avais reçu la réponse du Seigneur que c'était le poids de la responsabilité qui enlevait la joie, qui enlevait l'allégresse. Vous savez, un enfant, il est léger, il n'a pas de soucis, et il a une joie complète. Et le poids de responsabilité peut se transformer en pression. À l'époque, la réponse que j'avais reçue, c'était le poids de responsabilité. C'est maintenant que lorsque nous avons fait la pensée du jour, il y a eu le terme pression qui est venu. Voilà. Les responsabilités, ça devient une pression. Et cette pression te pousse, puisque tu n'as pas su te décharger sur Dieu, cette pression te pousse parfois à faire n'importe quoi, à faire même le contraire de ce que Dieu attend de toi. Et comme on a vu avec Aaron, cette pression peut te pousser à prendre la place de Dieu parce que tu veux te défendre comme si c'était toi le problème. Cette pression, surtout le plus grave, le plus insidieux, c'est qu'il t'enlève la joie de vivre. Il t'enlève la joie. Tu es en Christ, mais tu as le visage crispé. Puisque tu n'es pas joyeux, tu es froid. Parce que il y a un poids sur toi. Essayons, bien-aimés, de porter un sac de 5 kilos pendant 10 mètres. On garde notre sourire. Hein. Mais portons ce sac pendant 1 kilomètre seulement. Hein. C'est pas lourd, hein, 5 kilos. Dès que on dépasse le kilomètre, là, on sent le visage qui commence à se crisper. Le poids, la pression, ça commence à t'enlever la légèreté. Quand je dis légèreté, là, dans le sens l'allégresse, la gaieté, voilà, ça commence à t'enlever ça. Ça t'enlève le sourire, ça te donne des idées noires. Mais quand est-ce qu'on va arriver? Tu commences à te plaindre. Et c'est ça qui est arrivé à beaucoup de personnes qui ont perdu la voix de Dieu à cause de la pression. Même dans notre société, dans la vie de tous les jours, beaucoup sont devenus SDF à cause de la pression. Il y en a qui sont devenus alcooliques à cause de la pression dans le mariage, dans la vie de famille. La pression est tellement grande qu'il devient alcoolique. Il y a toutes sortes de pressions qui font que certains changent complètement parce qu'ils ont subi trop la pression de leur femme, de leur mari, de leur maman, de leur papa. Il y a beaucoup qui ont été détruits en subissant une pression, puisqu'ils n'ont pas, certains ne connaissaient pas Dieu, donc ils n'ont pas su donner ça à Dieu, et donc ils en sont devenus dépressifs. Tout ce qu'on entend, la dépression, anxiété, c'est dû à la pression. La pression, tu sens une voix qui te dit, mais tu risques d'être licencié, tu sais que sur ton poste, il y a deux ou trois personnes, donc il faut que tu cartonnes, mais oui, mais toi tu cartonnes, tu es fatigué, mais tu dois continuer encore. Et puis c'est le burn-out, comme on dit, et c'est la dépression qui commence. La pression définit la vie des gens, modèle la vie des gens. Et aujourd'hui, le message, c'est que Jésus a pris tout ça à la croix, il est écrit dans Jean 19, 30,
tout est accompli.
Tout est accompli. Il a tout pris. Tu dois te sentir léger maintenant. Parce que quelqu'un d'autre a pris le poids. Il dit dans Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il enlève la pression. C'est important. Alors, je reviens encore sur notre introduction. Donc, on a lu deux textes pour nous montrer comment la pression peut vraiment détruire ta mission, détruire ta vie et te faire faire des choses graves comme Moïse, l'homme le plus patient au monde, a fini par faire, comme Aaron en est arrivé à construire une idole alors que lui, il est censé être la sentinelle du peuple pour l'empêcher de faire cela. Je voudrais nous citer l'exemple parfait. Vous vous souvenez de Jésus dans le désert? Jésus a jeûné pendant combien de temps? 40 jours. Et c'est écrit, hein, que ce soit dans Matthieu 4 au début, que ce soit dans Luc 4, parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les versets, c'est écrit quand il a fini son jeûne. Vous comprenez? Ce n'est pas à dire que c'est une proposition que l'on va citer là qui lui a été faite au milieu pour ruiner son temps de décision de jeûner avec Dieu. Non, il a fini. Donc quand on finit son jeûne, on a le droit de manger puisqu'on a fini le jeûne. Il a jeûné 40 jours, maintenant le jeûne est fini. Alors, qu'est-ce qui se ramène? Satan, le roi de la pression. Sa technique, c'est la pression. La pression, il en est le spécialiste. Il te dit, oh, mais tu t'es laissé vraiment gifler comme ça. Mais donc, si tu entends ça, tu veux réagir. Lui, il a déjà prévu que l'autre va réagir aussi. Il va aller mettre la pression chez l'autre. Mais sors ton arme, sinon on va t'humilier. Et pression sur vous tous. Vous vous entretuez, lui s'en sort vainqueur, le diable. Et il vient avec sa pression en disant, mais si tu es fils de Dieu, puisque avant que Jésus n'aille jeûner, il a été baptisé par Jean-Baptiste et la voix de Dieu a parlé du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et lui maintenant il vient, il dit à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, le jeûne il est fini, mais là il n'y a pas de nourriture dans le coin. Transforme ces pierres en pain. Est-ce que Jésus a fait ça? Non. Mais pourtant, n'avait-il pas le droit de le faire? Si. Puisque il avait la capacité de transformer les pierres en pain. Deuxième chose, son jeûne était fini. Ça ne serait pas une infraction par rapport à son jeûne que de manger. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Pour nous enseigner, nous tous, ne rien faire sous la pression extérieure. Ne rien faire. Il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Sous-entendu, oui, j'ai faim, j'ai envie de manger, mais mon papa s'en occupe. Mais ne vivra pas seulement de pain. Je ne dépends pas de ça. Ma vie est plus grande que le pain que tu me proposes de manger. Ma relation avec Dieu est plus grande que ce pain-là. Là, il y a un collègue au boulot qui va venir te voir. Mais tu occupes le même poste que Germain. Mais pourtant, vous n'avez pas le même salaire. Il faut que tu revendiques. Et toi, tu vas suivre cette pression. De revendication en revendication, ça aboutit à quoi ? Au licenciement. Parce que tu as écouté le collègue. Or, toi, ta vie ne dépend pas d'un salaire. Moi, quand on me fait ces réflexions-là, moi, je dis non, moi, je ne travaille pas pour chercher l'argent. Moi, je travaille pour accomplir ma mission sur terre. Ah, ça veut dire quoi? Moi, je dis oui.
Moi, je leur ai dit, mais vous voyez, vous m'avez vu, je ne travaillais pas, mais je ne manquais de rien. Donc, je ne travaille pas pour ça. Parce que les collègues disent, ah oui, mais on devait te faire signer un CDI, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Moi, je dis, mais moi, je ne cherche pas tout ça. Moi, tout ce que je cherche, c'est de faire mon service, c'est tout. Je suis bien matériellement avec Dieu. Ça, il s'occupe de moi. C'est tout. Mais tu vas suivre une pression qui va t'enlever la joie de vivre, qui va t'enlever la paix. La pression est dangereuse. Jésus n'a pas transformé les pierres en pain. Il est resté tranquille. Satan est venu avec une autre pression encore. Il n'a pas cédé. C'était pour nous enseigner. Qu'est-ce qui nous a amenés à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui à travers le péché et à travers ce que le péché a fait de nous aujourd'hui? Mais c'est le péché de notre papa, Adam. Mais il a péché pour comment? Sous la pression. Ève a subi la pression de qui? Du diable. Et Adam a subi la pression de qui? De d'Ève. C'est toujours pression, la pression. Satan dit, mais comment on peut vous interdire de manger un fruit? Où est le mal? Est-ce que vraiment il a dit ça? Maintenant, Ève, pour prouver qu'on ne peut pas les duper par Dieu. Mais non, il a dit ça, mais il est bon, quoi. Dieu, notre Dieu. Oh, Satan dit, écoute, pourquoi il vous empêche de manger ça, s'il est si bon? Parce que dans un premier temps, il donne une bonne réponse. Notre Dieu a dit ça, qu'il ne fallait pas. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez le défendre? S'il était si bon que ça, pourquoi il vous empêche de manger ça? De toucher à ce fruit-là? C'est parce que vous allez devenir comme lui. Voilà. Une pression qui vient de l'extérieur. Quel a été le défaut? Le défaut, c'était de céder à la pression et de commencer la conversation. C'était ça. Notre Dieu a dit ça, tu t'arrêtes là. C'est tout. Ah oui, mais là, tu vois avec lui. Il a dit ça, nous nous arrêtons là. Donc, une des manières de répondre à la pression, c'est rester sur les versets bibliques, sur la parole. C'est tout. Ne pas entrer dans des débats longs philosophiques. C'est pour te mettre la pression. Reste sur ce qui est clair pour toi que tu lis dans la parole. Voyez l'exemple, hein? Nous avons pris 3 exemples. Adam, le premier mauvais exemple. Deuxième exemple, Aaron. Troisième exemple, Moïse. Et le quatrième exemple, Jésus, qui triomphe de la pression. Il ne cède pas. Il attend que Dieu lui donne la nourriture. Il ne cède pas. Les gens qui veulent aller très vite pour acquérir certaines choses, très vite, Satan te dit, mais ça fait 10 ans, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans. Parfois, ce n'est même pas très vite. Parfois, c'est justifié, comme le cas de Jésus qui avait fini son jeûne. Sauf que, même quand c'est justifié, tu ne cherches pas les choses pour honorer ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours dire, c'est vrai, j'ai vraiment envie d'une maison, j'ai vraiment envie d'une voiture, j'ai vraiment envie d'un enfant, mais je m'attends au Seigneur. Voilà. Je ne veux pas céder à la pression pour chercher des formules qu'on me propose, des formules qui sont négatives. Vous voyez? Donc, même quand c'est justifié, ne pas céder à la pression. La pression enlève le goût de vivre. La pression enlève la joie. La pression enlève la paix. Et plus grave encore, la pression enlève la foi. Parce que dans cette pression, il y a aussi l'accusation. L'accusation comme quoi tu es irresponsable. L'accusation comme quoi tu entraînes les gens dans l'erreur. Et donc maintenant, quand toi, tu subis ça, tu as tendance à déprécier maintenant ton lien avec Dieu. Comme pour dire, c'est vrai quand même, Et en disant c'est vrai quand même au mauvais conseil de la pression, tu déprécies Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup, beaucoup ne sont pas heureux aujourd'hui, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église, parce qu'ils n'ont pas géré toutes les pressions ambiantes qu'il y a à côté de nous. Il y a plein de pressions ambiantes. Nous devons apprendre à les gérer sérieusement. Aaron n'a pas géré comme il faut. Moïse n'a pas géré la pression comme il faut en ce moment-là. Mais Jésus a géré la pression comme il faut. Pourquoi ? Toujours attaché à son Père. Toujours attaché à sa parole. Toujours. Satan dit, mais oui, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout. Je ferai de toi le roi de ce monde. Lui, il sait que dans la parole, c'est prévu que lui-même, il est le roi. C'est dit même qu'il est le roi. Il n'a pas besoin de la royauté de Satan. Il n'a pas besoin. Vous voyez, c'est ça la pression, quoi. La pression vient avec sa définition même des choses. Jésus dit, mais je refuse votre définition. Je suis déjà roi par mon Père. Voilà. Ta définition à toi, Satan, de roi, je refuse cela. Moi, je suis le véritable roi. Je ne cède pas y rester sur sa parole. C'est très important. Et vous savez que concernant les pressions négatives, nous sommes tous capables de les repérer. Et nous sommes conscients que c'est notre orgueil qui nous pousse à y répondre. Ça, nous sommes conscients. Les gens qui vont te mettre la pression sur la richesse, tu es conscient que ce n'est pas bien. Mais dans ton orgueil, tu veux aussi t'enrichir, tu veux aussi avoir la même voiture comme dans la publicité de Vegas, tout ça. Voilà. Mais ça, c'est ton orgueil. Mais il y a des pressions beaucoup plus subtiles. C'est ce dont il faut le plus se méfier. Vous voyez, en tant que parent, il y a la pression de nourrir, d'habiller, de payer les factures, tout ça. C'est une responsabilité qui peut devenir une pression et nuire à ta vie. Et nuire à ta vie. C'est très, très dangereux. Beaucoup ont parfois fui. Il a fui la famille parce qu'il n'a pas pu supporter la pression de continuer à être celui dont on attend tout. Voyez ? Donc la pression vient dans le sens tu es celui dont on attend ceci, dont on attend cela. Et au début, ce n'était qu'une responsabilité. Ensuite, ça devient une pression. Et les familles d'aujourd'hui sont devenues des familles à pression. Chacun met la pression sur l'autre. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'es pas à la hauteur pour ceci, tu n'es pas à la hauteur pour cela. Il y a toutes sortes de pressions et quand tu veux les honorer, ces pressions-là, c'est toi qui chutes, qui deviens une loque plus tard. Nous devons faire attention. La pression la plus subtile, c'est celle-là où on s'attend à toi par des gens. Les gens s'attendent à toi. Les gens s'attendent que tu prêches le dimanche. Mais, dans la parole, c'est écrit « Ouvre ta bouche, je la remplirai ». Dans la parole, c'est écrit « Médite les Écritures jour et nuit ». Au lieu de méditer les Écritures jour et nuit, toi, tu commences à calculer comment tu vas répondre à la pression du dimanche. Et quand tu viens sous pression et tu vas faire des choses charnelles. Voilà. Et c'est très dangereux, ces responsabilités qui paraissent normales, qui sont normales au début, mais qui deviennent des pressions. Il ne faut pas, en tant que parent, te mettre la pression comme si c'est toi qui dois répondre à tous les besoins de tes enfants. Non. Il faut que tu te dises que tu n'es qu'un instrument de Dieu, que Dieu a placé dans cette famille-là comme un responsable. Mais quand il y a des choses que qui te dépassent, aie le réflexe de faire appel au vrai papa qui est au ciel. Voilà. Aie ce réflexe de dire à tes enfants que toi-même, tu dépends de Dieu. Donc, il ne faut pas que tu donnes l'image à tes enfants d'être le sommet de l'affaire. Tu n'es pas le sommet de l'affaire. C'est Dieu qui est le sommet de l'affaire. Donc il faut que tu leur dises clairement, moi-même aussi je dépends de Dieu. Là actuellement, je n'ai pas la chose que vous attendez. Ben, nous allons prier que Dieu nous accorde cela. Là, tu passes pour quelqu'un qui a échoué, mais pour la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ce que beaucoup refusent. Ils veulent prouver qu'ils vont amener ce que l'enfant veut. Ils veulent montrer. Ils ne veulent pas que l'enfant ait une sensation d'échec des parents. Non, ce n'est pas biblique et c'est ça qui conduit à beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Tu vas vouloir à tout prix acheter la même chose que les amis à l'école, acheter telle chose que la même chose que les cousins. Et tu entraînes l'enfant dans une fausse conception comme quoi tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il faut que tu sois honnête. Lorsque tu t'es mal comporté, demandez pardon aux enfants. Moi-même aussi, tu montres que toi-même aussi, tu n'es pas parfait. Seul Dieu est parfait. Voilà. Maintenant, si par orgueil, tu ne veux pas le faire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une trace d'erreur chez toi pour qu'on ne t'obéisse tout le temps, tu es dans l'erreur. Tu construis d'autres de futurs orgueilleux. C'est très dangereux. Eux aussi vont faire la même chose que toi plus tard. Il faudrait prouver que quand on est responsable, on ne se trompe pas. Je me souviens, à une époque, j'étais dans une église et j'étais comme la personne qui remplaçait le pasteur quand il n'était pas là. Donc j'étais le deuxième responsable. Et une fois, il est revenu, je lui expliquais que j'ai eu mal à partir avec une sœur, même si ce n'était pas de ma faute, pour éteindre le feu. J'ai tout simplement dit à cette sœur-là, « Bon, écoute, pardonne-moi si mon comportement t'a gêné. » Le pasteur me dit, « Mais non, toi, tu es un responsable. Si tu te demandes pardon à un membre comme ça, tu diminues ton autorité. » Vous voyez, mauvaise conception. Alors que c'est faux. Quand tu fais ça, l'autorité spirituelle divine vient sur toi, plus forte qu'avant. Parce que c'est Dieu qui donne l'autorité. Ce ne sont pas les humains. Ce ne sont pas les humains, vous savez. Surtout, méfiez-vous des humains. Vous ne gérez pas leur cœur. Moi, une fois, quand j'étais toujours encore dans la région parisienne, j'avais visité des amis dans leur église. Le pasteur a frappé fort côté péché du retard. Il a dit... Donc, dès que tu es en retard d'une minute, avant d'entrer dans la salle, tu demandes pardon. Il a frappé fort. Et puis, le dimanche qui a suivi, dans le train, puisque dans la région parisienne, on se rencontre dans les trains, chacun va dans son église. Dans le train, je vois les amis, je connais leur heure. Je dis, oh, frère, mais vous êtes en retard par rapport à vous. Vous n'avez pas entendu la prédication de votre pasteur le dimanche passé? J'ai dit, oh, toi tu le suis, nous le connaissons, lui-même il ne respecte pas ceci, il ne respecte pas cela. Voilà, vous voyez, ce n'est pas en criant haut et fort que vous attirerez le respect. Ce n'est pas en refusant vous-même de vous humilier que vous attirerez le respect. C'est en prenant votre place de simple humain, en mettant Dieu au-dessus, c'est là que l'autorité divine viendra sur vous. Voilà, et vouloir jouer au chef par la pression des humains, c'est très dangereux. Ne cédons pas à cette pression. Les humains veulent que nous paraissions comme des grands chefs. Et là, ils vont avoir un respect, mais c'est un respect charnel. Ce n'est pas un respect du cœur. Le vrai respect, c'est ce que quelqu'un pense de toi dans son cœur. Ce n'est pas ce que tu as comme... puissance qui lui fait peur. On peut faire peur devant tout le monde, mais quand la personne est toute seule dans sa chambre, elle t'insulte de tous les mots. Mais quand il y a tes gardes du corps, la personne fait la révérence. Mais quand la personne est seule dans sa chambre, elle sort tous les gros mots contre toi. Est-ce que c'est ça le respect? C'est pas ça le respect. Le vrai respect, c'est quand la personne est seule, il n'y a pas de témoin, qu'elle continue à te respecter. Là, c'est ça le vrai respect. Ça, c'est Dieu seul qui produit ça dans le cœur des gens. Ce n'est pas ton apparence qui va produire ça, même si tu impressionnes, même si tu es habillé en ministre de la République. Tu vas les impressionner les gens quand vous êtes dans cette situation-là, mais lorsqu'ils sont chez eux, tu ne vas pas les impressionner. Leur cœur va avoir le vrai avis sur toi. Mais nous subissons une pression ambiante qui veut nous pousser à ne pas être simple pour se faire respecter. n'agissez pas, ne suivons pas, ne craquons pas, demeurons simples. Ça, ce sont des pressions subtiles. Donc, je cite les pressions subtiles. La pression où le monde veut que tu, comme c'est toi le PDG, comme tu es le directeur, il y a un ami qui va te conseiller, mais tu sais, tu es quand même le directeur. Tu ne dois pas dire bonjour à tout le monde. Tu dois attendre que les gens te disent bonjour. C'est comme ça que tu vas te faire respecter. Donc, on te donne de faux conseils et tu subis des pressions comme ça et tu sais, tu deviens mauvais. Comme je vous ai dit, le pasteur qui me dit, tu ne dois pas demander pardon. C'est, non. Et quand tu subis une pression comme ça, c'est parce que c'est une pression. La pression, ce n'est pas seulement le nombre. La pression, c'est aussi qui te dit la chose. C'est carrément le pasteur lui-même, ton chef, qui te dit que ce n'est pas grave. Tu n'as pas à demander pardon, même si tu as tort. C'est comme une pression. Tu te dis, la prochaine fois, si je demande pardon, s'il apprend, il va venir me gronder. Mais moi, je n'ai pas cédé. Il a appris que la prochaine fois qu'une affaire était arrivée, j'avais encore demandé pardon. Et une troisième fois encore. Et comme c'est quelqu'un qui se comportait comme Sarkozy, qui voulait toujours dépasser tout le monde dans tout, alors pour chercher à me dépasser, lui, il a commencé à demander pardon maintenant avec le micro en public. Comme ça, il me dépasse. Voilà. Mais je dis, mais au moins, je t'ai enseigné à demander pardon. Voilà, c'est ça. Au moins, c'est cela. Donc, ne cédons pas à la pression, puisque ton patron vient te dire, mais c'est comme ça qu'il faut agir avec les ouvriers. Toi aussi, tu cèdes à sa pression, tu commences à mal agir. Non, nous devons rester bibliques. La pression en tant que responsable, les gens attendent de toi quelque chose. Ils attendent que le salaire augmente. Quand tu entres dans la salle, dans les bureaux, les gens te regardent mal. Parce qu'ils attendent les augmentations. Tu subis cette pression et tu vas aller faire des alliances avec d'autres entreprises qui vont te couler parce que tu veux augmenter le salaire des gens par la pression. Tout ce qu'on fait par la pression finira mal. Nous devons faire les choses d'une manière réfléchie, tranquille, ayant pesé les choses et en tant que chrétien, ayant prié le Seigneur, étant conduit par le Saint-Esprit, ça vient de nous. Tout ce qu'on fait par pression, ça vient de l'ennemi. La pression en tant que parent, on l'a dit, toutes les pressions où tu occupes une place de responsable et les gens attendent quelque chose de toi, les gens attendent quelque chose de toi dans le chant, les gens attendent quelque chose de toi dans la prédication, les gens attendent, ne te laisse pas emporter par la pression. Laisse Dieu faire son affaire en toi. Fais ta part, prépare-toi, lis la Bible, fais des répétitions, mais le jour, le moment ou prévu pour faire les choses, compte sur Dieu. La pression de réussir en classe. Beaucoup, nous connaissons des gens, à cause de cette pression, ils ne sont pas venus le jour de l'examen. Hein. Faut essayer d'imaginer déjà les X, ça commence à être plus Y, tout ça. Ils tombent malades le jour là, ils ne viennent pas. La pression, réussir en tant qu'employé, la pression. Et c'est comme ça qu'on va te faire de toi un esclave par la boîte, parce que tu vas à tout prix réussir. Ça mène les gens à tricher, ça mène les gens à être des pions du patron pour accuser les autres, pour espionner les autres. Puisque tu as la pression des réussites. La pression dans les études, ça t'enlève la tranquillité de la réflexion. La réflexion doit être tranquille. Réfléchir sous pression, ça bloque. En tant qu'enfant de Dieu, quand ça nous dépasse, demandons que Dieu nous aide, même dans les études. Lisons Jean 19, 30, je l'ai cité. Mais je voudrais bien qu'on lise ça. Jean 19, 30. Ensuite, ça sera 1 Pierre 5, 7. Et puis Ésaïe 30, 15. Donc nous allons lire tous les passages qui nous donnent la victoire sur la pression. Le plus important, c'est Jean 19, 30. Voilà. Le plus important.
Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'esprit.
Tout est accompli. C'est comme ça que Jésus crie à la croix. Mais c'est quoi ce tout-là? Mais c'est vraiment tout. Première chose, il a obtenu le pardon de nos péchés. C'est le péché qui a créé la maladie, l'incapacité, les problèmes en nous, dans l'humanité, c'est le péché. La désobéissance de notre père Adam face à Dieu, c'est ça qui a entraîné la pourriture de l'humanité. Et nous étions condamnés à cause de nos péchés. Et c'est l'ultime pression. L'ultime pression, c'est la pression de la condamnation liée au péché. C'est l'ultime pression. Et ça perturbe. Et on veut se prouver qu'on est bon en triomphant du péché par soi-même. Ce qui conduit à ce qu'on pêche davantage. L'ultime pression, c'était ça. Le péché. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Il a payé pour ça. Deuxième chose, Jésus-Christ a pris sur lui nos maladies, nos imperfections. Il a tout accompli à la croix. Jésus-Christ, il a ouvert la salle d'audience. Vous savez, pour recevoir gain de cause, il faut rencontrer la personne qui donne les choses. Et la personne qui donne les choses ici sur terre, c'est Dieu. Et non seulement il donne tout. Il est capable de tout, il est tout puissant. Et le jour où Jésus est mort à la croix, quand il a crié « Tout est accompli », le voile du temple qui s'est déchiré, symbolisant que le passage pour aller vers Dieu était ouvert désormais. Donc Jésus-Christ a accompli cela. Désormais, nous pouvons tout demander à Dieu. C'est pourquoi Jésus nous laisse la prière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous ceci, donne-nous cela. » Nous pouvons maintenant, sans limite, parler à Dieu et lui demander les choses. C'est ça, le tout est accompli, tout est accompli. Tout est réglé à la croix. Et nous lisons donc 1 Pierre 5, 7. Ensuite, ce sera Isaïe 30, 15.
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Voilà. Puisqu'il a tout accompli, désormais, nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis, c'est tout. La pression du péché, déchargeons-nous. La pression de responsabilité, déchargeons-nous sur le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous ne fassions pas notre part. Nous avons notre part à faire, mais après avoir fait notre part, le reste, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Les gens vont nous mettre la pression pour que nous fassions comme ils veulent au moment où ils veulent. Nous devons dire non, j'ai fait ma part, le reste, ça me dépasse, ça c'est Dieu qui va faire. La pression par rapport au péché, Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Je me confie en toi. Voilà. Mais quand tu prends sur toi, tu commences à vouloir honorer, tu pêches encore davantage. Mais quand tu fais confiance en Dieu, tout est différent. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ésaïe 30, 15.
Ésaïe 30, 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu.
Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans la tranquillité. Lorsque nous sommes vainqueurs de la pression, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la paix de Dieu. La joie de Dieu. Vous connaissez un verset, l'un des versets les plus courts de la Bible, le deuxième, je crois, 1 Thessaloniciens, le premier c'est Jésus pleura, mais le deuxième c'est 1 Thessaloniciens 5, 16, en ex-écho avec celui qui suit, hein, 1 Thessaloniciens 5, 17. Voilà. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Puisque Jésus a tout pris sur lui à la croix. Au fait, nos cultes devaient être des fêtes. Parce que tu viens célébrer ce que Jésus a fait. Jésus a fait tout cela pour toi à la croix. Tu commences à citer les choses. Tu fêtes. Vous savez, il y a, en Afrique, quand on cite le gouvernement à la télévision, le monsieur, on cite son nom, ministre du transport. Il n'est pas encore arrivé à son bureau. Hein. Le soir même, la famille vient, les amis viennent. C'est la fête. Mais il n'est pas encore arrivé au bureau. Mais le nom a été cité juste à la télé. Ministre de transport, Jean-Jacques. Le soir, pendant 3 jours même, ça va être la fête. Les amis de l'école, du lycée, même de l'école maternelle, ils vont venir. Parce qu'ils savent la suite. Mais nous, on a reçu la plus belle proclamation. Jean 19, 30, tout est accompli. C'est fait. Vous savez, dans certaines versions, moi j'aime la version qui dit c'est fini. Il dit c'est fini. C'est réglé. Donc, tout le reste est réglé. Donc, nos cultes sont des temps de rappel de Jean 19, 30, au fait. Nos prières doivent être des temps de rappel de Jean 19, 30. Oh, mais finalement, Jésus a dit tout est accompli. Donc, parfois même, ça peut stopper ta prière de que tu voulais faire. Tu viens avec inquiétude. Jean 19, 30, tout fini. Tu commences à sourire. Jésus a tout accompli. Là, maintenant, tu peux prier tranquillement. Père éternel, tu vois la douleur que j'ai. Est-ce que dans ta grâce, tu peux m'enlever ça, puisque Jésus a tout accompli pour moi à la croix. En fait, la prière maintenant devient simple, parce qu'elle commence par Jean 19, 30. Tout est accompli. Déchargez-vous sur tous vos soucis. Ésaïe 35, soyez donc dans la joie. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos, que sera votre salut. La victoire sur la pression fera de toi quelqu'un toujours joyeux. Tu seras toujours joyeux. La pression médicale, les médecins qui te disent, mais voilà la situation de ton enfant. C'est incurable, c'est ceci, cela. Vous savez, ils ont dit ça combien de fois, beaucoup de personnes. Mais il y a des gens qui ont répondu à ça en disant, ma vie est dans la Bible, ma vie n'est pas dans l'hôpital. Ma vie est cachée avec Jésus en Dieu, c'est ça qui est écrit. Notre vie est cachée en Dieu avec le Seigneur. Et quand tu entends cette pression-là où on te dit, ben voilà les résultats, donc là c'est fini, souviens-toi de Jean 19, 30. Souviens-toi que Jésus-Christ a tout accompli. C'est pourquoi c'est écrit dans Psaume 112, verset 7, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles et demeure ferme. Ferme sur quoi? Ferme sur ce qui est écrit pour lui. Tout est accompli. Il demeure ferme sur ça. Il ne bouge pas. Vous allez me dire, mais oui, mais on finit par mourir. Oui, nous mourons avec cette foi-là que nous allons dans la vie éternelle, au ciel. Nous ne mourons pas, ce n'est pas une défaite pour nous. C'est un transport que nous prenons pour aller au ciel. Toujours avec la même joie. Tout est accompli. C'est cela. Combien de chrétiens ont perdu en force dans le témoignage à cause des événements négatifs dans leur vie? Ils n'ont plus été capables de parler du Seigneur. Ils n'ont plus été capables d'encourager les autres parce qu'ils sont là toujours à ruminer leurs prétendues difficultés et échecs. Non, il faut commencer la vie avec le tout est accompli. Jésus a tout réglé. Maintenant, j'attaque la vie, j'attaque le reste. Et tu viens, tu prêches la vérité. Et quand tu finis, il y a quelqu'un qui te dit, mais toi, tu viens dire que Dieu est tout-puissant, tout ça, mais moi, je suis au courant qu'il te manque telle chose. Tu te dis, oui, mais Dieu s'en occupe. Ce que j'ai dit là, ça demeure vrai. Il va s'en occuper. Voilà. Ça crée le calme, la tranquillité, la joie. Ne te mets pas la pression. Laisse entre les mains de Dieu. Laisse entre les mains de Dieu. Philippiens 4, 6.
Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi qui surpasse toute intelligence? La pression passe souvent par l'intelligence. On te dit, mais sois sérieux, regarde la situation. Entre guillemets, sois intelligent. Regarde la situation. Sois humain. Regarde la situation. La pression vient souvent par l'intelligence. Dis, mais la paix de Dieu que tu recevras quand tu t'es déchargé sur Jésus va dépasser cela. Je veux dire une chose. Vaincre la pression, ça ne veut pas dire forcément répondre aux besoins liés à cette pression. C'est plutôt savoir être conscient que Jésus a tout réglé à la croix. C'est comme ça que tu triompheras de la pression. Tu dis, Seigneur, j'ai la ferme conviction que tu as tout réglé à la croix et je t'abandonne cette affaire. Et c'est comme ça que nous serons toujours vainqueurs. C'est comme ça que nous serons toujours joyeux. Tu viens célébrer ta victoire chaque jour. Chaque jour, tu viens célébrer ta victoire. Il y a une femme qui était sous pression. Elle a amené son fils dans une réunion chrétienne. Elle a entendu Jean 5, 24. Le prédicateur l'a donné, l'a lu. C'est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi est passé, ne passera plus au jugement. En jugement, il est passé de la mort à la vie. Quand elle a entendu cette phrase, ça l'a comme transfigurée. Elle a été vivifiée. Elle a reçu la vie. Mais quand elle retourne chez elle, il y a la voix du diable qui te remonte encore les difficultés. Et elle est retombée dans la tristesse. Et son fils qui avait noté le verset, est venu lui montrer le verset disant, « Maman, le verset n'a pas changé. Il est toujours identique. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui t'a fortifié hier, il peut te fortifier aujourd'hui. Celui qui t'a fortifié il y a 10 ans, il peut te fortifier aujourd'hui. Ce n'est pas un problème qui peut dépasser Dieu. Donne gloire à Dieu en ne laissant jamais la pression te submerger. C'est donner gloire à Dieu. Quand on laisse la pression nous submerger, c'est rabaisser Dieu. Donnons gloire à Dieu. Laissons Dieu au-dessus de toute pression, au-dessus de toute question sans réponse. Mettons Dieu au-dessus de tout cela. Vivons la vie chrétienne dans une fête continuelle. C'est ce que notre frère Paul nous demande. Soyez toujours joyeux, 1 Thessaloniciens 5, 16. Dans 1 Corinthiens 5, il dit, célébrons notre Pâques chaque jour. Notre Pâques, c'est Christ. Chaque jour, c'est une fête de savoir que Christ a pris tout sur lui. Du coup, nous sommes déchargés. Nous n'avons plus à être sous pression. Nous devons être légers en Christ parce qu'il a tout pris. C'est ça là, qui fera la différence entre nous et ceux qui n'ont pas Dieu. Cette liberté. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Puisque tout Christ a tout accompli à la croix. Nous vivons dans cela. Nous devons vivre dans cela. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu soit notre partage tous les jours à cause de Jean 19, 30. Peu importe ce que les médecins vont te montrer, les humains vont te montrer, les attentes des uns des autres, on s'attend à toi que tu fasses ceci au travail. Ne te mets pas la pression. tu te dis, je ferai ma part, Dieu fera sa part. Après tout, j'ai un Dieu. Voilà. Après tout, tu as un Dieu. Finalement, pourquoi avoir un Dieu égayé et demeurer triste? Pourquoi? Il faut faire le choix, bien-aimé. Oh Seigneur, merci de te manifester pour changer nos cœurs, que notre foi soit transformée aujourd'hui, que nous ne marchions plus sous le joug d'une quelconque pression sur nous. C'est fini toutes ces histoires-là, parce qu'à la croix, tu as tout accompli, que désormais, nous te fassions confiance que tu nous as sauvés et tu as tout réglé pour nous. Merci Jésus de faire de nous de vrais enfants de Dieu joyeux, libérés de toute pression. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit aussi que Jésus nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a sauvés, il nous a fait asseoir comme des patrons à côté de Dieu. C'est comme ça que nous devons vivre, dans une conscience claire et nette, que nous sommes au-dessus, dans les lieux célestes. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche, il me fait marcher sur les lieux élevés. Tout est en bas, tout le reste est en bas, rien ne doit nous dominer. Seul Dieu doit être notre maître. Voilà, que Dieu soit béni.